Tournez avec moi dans la parole de Dieu, dans le psaume 103. On va regarder ensemble les cinq premiers versets cet après-midi. Psaume 103, les versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses biens. Ces deux strophes-là, ces deux versets-là sont faciles à retenir. Notre sœur Hélène le répète assez souvent dans ses prières. Donc, c'est les deux premiers, on les connaît. 3, 4 et 5, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et c'est intéressant, ça, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est particulier. Ah oui, amen, ah oui. Oui, extraordinaire, prions. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour te louer, pour te bénir cet après-midi, Seigneur. Nous pouvons dire avec David, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que tu pardonnes toutes nos iniquités, tu guéris toutes nos maladies. Tu nous délivres de la fosse, Seigneur, et gloire te soit rendue pour la résurrection des morts, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que non seulement nous étions morts spirituellement, nous étions morts physiquement, mais nous étions aussi morts pour l'éternité. Et grâce, Seigneur, à ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous, eh bien, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir en tant que tes enfants cet après-midi, parce que cette résurrection, c'est notre espérance vivante, Seigneur, comme l'apôtre Paul, comme tous ceux qui nous ont précédés, qui ont gardé nos yeux sur celui qui a quitté cette terre pour monter là-haut vivant, dans son corps de ressuscité, pour s'asseoir à ta droite. Seigneur, nous savons qu'il est toujours à ta droite cet après-midi. Nous savons qu'il intercède pour son peuple. Et Seigneur, nous te prions de vraiment te réjouir de voir ton peuple rassemblé cet après-midi, non seulement pour te louer, pour t'adorer, mais pour entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Étant des personnes qui sommes sauvées par grâce, nous avons un problème qui nous affecte tous cet après-midi, et ce, sans exception. Notre problème, c'est le suivant, c'est que nous sommes des gens qui oublient facilement. C'est vrai que nous sommes des gens qui oublient facilement, non? Nous oublions facilement. Et je ne vous porte même pas de jugement. Nous sommes de la même race qu'Adam, nous sommes de la même race que les Israélites. Les Israélites avaient passé plus de 400 ans en Égypte, et quelques temps après, eh bien, ils regrettaient, soi-disant, tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Pour voir si les Égyptiens invitaient les esclaves à s'asseoir à des tables remplies de mets succulents, alors qu'ils prenaient de force leurs filles, alors qu'ils les faisaient travailler de force jour et nuit, eh bien, les Israélites avaient oublié, imaginez, ils avaient oublié tous les miracles que Dieu avait accomplis pour les libérer du joug des Égyptiens. Ils avaient oublié les plaies que Dieu avait envoyées en Égypte, frères et sœurs. Vous imaginez? Nous, on n'a pas encore contemplé ça, hein? On n'a pas encore contemplé ça. Alors, d'autant plus qu'il est possible que si on oublie notre propre salut, si on oublie notre propre nouvelle naissance, eh bien, on risque de faire partie de ceux qui oublient. Et on peut tous se souvenir de toutes sortes de choses, particulièrement ce que les autres nous ont fait ou ce que les autres ont dit sur nous, mais nous avons tendance à oublier ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous avons la mémoire longue quand il s'agit de nos blessures, de nos peines et de nos fardeaux, mais nous avons la mémoire assez courte lorsque vient le temps de nous rappeler jusqu'à quel point le Seigneur a été bon pour nous. David a aussi eu ce problème. Dans les deux premiers versets, regardez avec moi, il appelle son âme à se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour lui. Il cherche à éveiller, à stimuler son âme, à se rappeler de ce qu'il avait reçu de Dieu et de ce que le Seigneur a permis de faire pour lui et en lui. Et David appelle son âme à faire deux choses. D'abord, il appelle son âme à bénir le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et le mot bénir signifie ici s'agenouiller avec l'idée d'adorer et de louer le Seigneur. Et David sait que Dieu est digne de recevoir toute la louange qui lui est due. Et il ne veut pas s'approcher du Seigneur uniquement avec sa bouche et l'honorer de ses lèvres. Il désire que son cœur soit pleinement impliqué dans la louange qu'il va faire monter devant le trône de la grâce de Dieu. Il ne veut pas oublier aucun des bienfaits que le Seigneur lui a accordés. Alors il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et la deuxième chose qu'il rappelle à son âme, regardez ici, c'est qu'elle n'oublie aucun des bienfaits qu'elle a reçue de Dieu. Il défie son âme de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour elle. Et remarquez que les pronoms personnels qui se trouvent dans les versets 3 à 5 font toute référence à l'âme. C'est important pour David. On pourrait dire, bien, Seigneur, au lieu de prendre le mot âme, hein, il parle de son être intérieur. Seigneur, je te demande pardon ou Seigneur, je te bénis parce que moi, en tant qu'être humain, en tant que ton enfant, Seigneur, tu m'as comblé de bienfaits tout au long de cette année. On va commencer une première fois, un petit exercice cet après-midi. C'est un culte de la moisson. On est là pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous a accordés tout au long de l'année. Le mot bienfait, on pourrait mettre synonyme bénédiction aussi, c'est des bénédictions. Mais se rappeler aussi que toute bénédiction que vous recevez, que je reçois de la part de Dieu, c'est toujours par grâce, toujours par grâce. Dieu ne nous doit rien. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. C'est important de se rappeler de ça. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. C'est une grâce qu'il nous accorde à chaque fois qu'il nous accorde une bénédiction. Alors, rapidement, on va simplement, une ou deux personnes. David, il dit, la deuxième chose qu'il rappelle à son âme, c'est qu'elle n'oublie aucun des bienfaits qu'elle a reçus de Dieu. Une ou deux personnes, simplement, qui vont se lever debout pour que tout le monde entende et remercier le Seigneur pour un bienfait qu'ils ont reçu, une bénédiction qu'ils ont reçue cette année dans leur vie. C'est un exercice à faire ensemble, hein? Oui. Ouais. Allez, on va le faire. Oui. Laissons le Saint-Esprit agir. Un bienfait. Pourquoi on fait cet exercice-là ensemble? Pourquoi je vous invite à faire cet exercice-là? Parce que dans l'introduction, je vous ai dit qu'on était des gens qui oubliaient facilement. Facilement. Alors là, c'est le travail que le Seigneur doit faire dans notre esprit. C'est simplement dire, écoute, essaie, rappelle-toi des bienfaits, des bénédictions que je t'ai accordées cette année. Et proclame-le devant le peuple de Dieu pour que je puisse me réjouir dans le ciel avec les anges. Les bénédictions que tu as reçues, de ta reconnaissance envers les bénédictions que je t'ai accordées tout au long de l'année.
Moi, je suis heureux de te bénir, de toutes les bénédictions que tu m'as fait cette année. De tous les bénédictions que tu m'as fait, voilà. Et je veux te dire merci à toi et le merci que tu m'as opéré. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, tous les jours. Amen.
Amen. Je trouve intéressant, frères et sœurs, que la racine du mot bienfait est la même racine que pour le mot pétrir, le sourire, mais c'est la même racine que pour le mot chameau. Pour ceux qui vivent au Moyen-Orient, l'importance du chameau ne peut être négligée. Il est appelé le vaisseau des déserts. Il transporte de lourdes charges, sur de très longues distances et pendant de longues périodes, il peut survivre avec peu d'eau et peu de nourriture. Et ce sont des animaux qui sont indispensables aux voyageurs qui voyagent, qui veulent traverser les sables brûlants des déserts et qui aspirent à arriver sains et saufs à leur destination finale. Et dans les temps anciens, eh bien, la richesse d'un homme était souvent mesurée en fonction du nombre de chameaux qu'il possédait. Donc, lancez-vous pas dans le commerce des chameaux, on n'en a pas besoin en Belgique, mais à l'époque, dans les temps anciens, c'était le nombre de chameaux que quelqu'un avait, eh bien, c'était un signe de richesse. Rappelez-vous Job, au début, avant ses épreuves, il avait 3 000 chameaux. Et quand le Seigneur lui a doublé sa bénédiction, après, il s'est retrouvé avec 6 000 chameaux, plus les autres animaux, les autres, tout ce qu'il avait aussi comme bien. Alors, Job, c'était quelqu'un de riche à son époque. Et comme les chameaux, les bienfaits de Dieu, sont capables de transporter les enfants de Dieu à travers les vastes déserts stériles de cette vie jusqu'à la maison de leur bon Père céleste. Amen. Ouais. Celui qui jouit des bénédictions de Dieu est riche au-delà de toute mesure, bien qu'il puisse posséder peu de choses qui appartiennent au monde. Ouais. On peut être riche en Jésus-Christ, et le Seigneur n'évalue pas nos richesses en fonction de ce qu'on possède en tant que biens qui sont appelés à périr, mais il nous a bien avertis de nous amasser des trésors qui vont durer pour l'éternité. Et dans l'Apocalypse, eh bien, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, quand le chrétien meurt, eh bien, ceux qui le suivent, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres qu'il a accomplies au nom de Jésus sur la terre. Ça, c'est les œuvres qui vont traverser, qui transcendent la terre et qui vont se rendre jusqu'en dans les cieux. C'est important. C'est important de se rappeler de ça. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on soit passif. Il nous a sauvés pour qu'on soit actif. Il nous a équipés. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné des dons spirituels. Et il veut vraiment qu'on puisse les mettre en pratique. Parfois, l'âme oublie jusqu'à quel point Dieu a été bon et continue à être bon pour ses enfants. N'est-il pas exact de dire qu'il arrive de nous laisser piéger par les problèmes et les difficultés de la vie, au point où nous oublions non seulement que Dieu était pourtant toujours présent, mais que nous oublions même ce qu'il a fait pour nous et où il nous conduit. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas coupables de permettre à nos yeux d'errer loin du Seigneur et de centrer nos regards sur les hommes plutôt que sur Dieu, au point d'en arriver à oublier ce que Dieu a fait pour nous? Chers amis, le monde autour de nous est constamment en train de changer. Le monde est d'une instabilité grandissante. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt. La situation économique mondiale est en mauvais état. Les gens ont des problèmes de santé, de logement et d'argent. Même l'Église n'est pas à l'abri de problèmes avec les gens qui la fréquentent, qui rentrent et qui sortent. Cependant, j'aimerais vous rappeler que pendant que le monde change, que l'Église change, pendant que votre vie change, les bienfaits du Seigneur ne changent jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours le même. Est-ce qu'on peut entendre un amen là-dessus? Dieu est toujours le même. Et Dieu aime son Église aujourd'hui. Il aime autant ceux qui composent son Église aujourd'hui que ceux qui composaient la première Église, l'Église primitive. Dieu a donné sa vie pour aller chercher un peuple. Et vous faites partie du peuple de Dieu. Et j'espère que vous avez cette conviction dans votre cœur que vous faites partie du peuple de Dieu. Parfois, mon âme oublie juste qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi. Parfois, j'ai besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de me rappeler des bienfaits que j'ai reçus de la part de Dieu. Aujourd'hui, alors que le Seigneur nous en donne la possibilité et la liberté de le faire, j'aimerais souligner les bienfaits que l'âme est souvent portée à oublier. Si vous avez permis à votre âme d'oublier les choses que Dieu a faites pour vous, alors ce message arrive à point pour parler à votre cœur cet après-midi. Si vous avez permis au fardeau de la vie et aux actions des autres d'influencer votre marche avec le Seigneur, Dieu a aussi une parole pour vous cet après-midi. Si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, vous entendrez comment vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. Car voyez-vous, ces bénédictions et ces bienfaits que je vais énumérer dans quelques instants, eh bien, s'adressent à tous ceux qui vivent par la foi avec Dieu, mais aussi avec tous ceux qui viendront par la foi à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Rapidement, permettez-moi de vous partager les bienfaits que l'âme oublie. Verset 3. Regardez au verset 3. Et je vais vous laisser prier après. Je ne vous donnerai pas ce que j'ai écrit, mais je vais vous laisser prier pour faire en sorte que le Saint-Esprit, vous ne soyez pas influencé par mes paroles, ni par les paroles du sermon, mais vraiment ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Frères et sœurs, est-il arrivé cette année, dans votre moment de prière, que vous avez rendu grâce à Dieu pour vous avoir pardonné vos péchés? Est-ce qu'on n'aurait pas oublié? Est-ce que c'est possible qu'on aurait pu oublier, frères et sœurs? Il y a des chrétiens qui m'ont confessé que depuis leur conversion, ils n'ont jamais, jamais, jamais demandé pardon à Dieu pour quoi que ce soit par après. On oublie facilement, frères et sœurs. On vient le matin, on commence à prier, la porte, on a l'impression que la porte est toute grande ouverte. On ne laisse même pas le Saint-Esprit nous examiner. Et on vient comme des, je vais utiliser le mot, j'espère que ce n'est pas vulgaire ici, mais comme des malpropres, on se présente devant le trône de la grâce de Dieu, en ne permettant même pas au Saint-Esprit de nous examiner, et parce qu'on a perdu de vue devant qui on se présente le matin, en commençant notre journée. Frères et sœurs, est-ce que c'est possible que vous auriez pu oublier de remercier Dieu, de reconnaître que c'est un bienfait que Dieu vous a accordé, qu'il vous accorde à chaque jour, à chaque fois que vous vous présentez devant lui parce que vous avez péché, que Dieu vous offre son pardon en Jésus-Christ. Là, on est dans un moment de louange, on peut avoir un moment de pardon, mais simplement ici, en tant que pécheur, le psalmiste dit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Et ça fait partie des bienfaits que le psalmiste reconnaît. Prenons un temps pour prier, une ou deux personnes. Amen. Amen.
Merci Seigneur Jésus pour le pardon.
Oui. Oui. Amen. Amen. Oui. Frères et sœurs, le mot iniquité est un mot intéressant et important dans la Bible parce qu'il fait référence à la culpabilité de quelqu'un. Une autre façon de le définir, c'est le mot perversité. En quoi sommes-nous coupables? Je pense que la traduction la plus juste aujourd'hui, c'est le mot rébellion. Tous les hommes sont coupables devant Dieu parce qu'ils ont tous péché. Bon, consolez-vous, ce n'est pas un message d'évangélisation, c'est la partie la plus dure du message, mais je dois en parler parce qu'on doit quand même rendre grâce à Dieu pour ça. Hein. On était tous des rebelles. On était tous des gens qui travaillaient contre Dieu, quoi. Qui essayaient même de le freiner. Il y a des gens qui nous ont témoigné, puis dans notre tête, on disait, c'est des idiots, c'est des gens qui font partie d'une secte, c'est des gens qui sont là, c'est des gens... Ouais. Et malgré tout ça, parce qu'on était des rebelles, mais parce qu'on baignait dans l'iniquité, Dieu, dans sa grâce, a permis que quelqu'un nous présente l'Évangile, que qu'on entende l'Évangile et qu'on soit sauvé par cette bonne semence qui vient de Dieu. En quoi sommes-nous coupables? Je pense que la traduction la plus juste, c'est le mot « rébellion ». Tous les hommes sont coupables devant Dieu parce que tous ont péché, nous dit la parole. Mais Isaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et on sait maintenant, parce qu'on connaît la parole, que celui sur qui toutes nos iniquités sont retombées, c'est la personne de Jésus-Christ. Et je le dis, le mot iniquité signifie non seulement que nous sommes coupables, mais il inclut également la punition qui accompagne ceux qui sont coupables. De telle sorte que non seulement Dieu a fait retomber sur Jésus notre culpabilité, mais écoutez bien, parce que ça, c'est d'une importance capitale, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu lui a fait subir aussi la punition que nous méritions, quoi. En fait, Dieu lui a fait subir la punition que lui ne méritait pas, mais que nous méritions. Et ça fait partie dans le mot iniquité, quoi. C'est toute la conséquence du péché. Et c'est très important parce que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé lorsque Jésus est mort sur la croix. Ce jour-là, Dieu le Père a fait en sorte de placer sur Jésus la culpabilité, la perversité, la rébellion de nous tous et toutes les conséquences de nos péchés qui font partie de la rébellion. Jésus a pris sur lui tous nos péchés et les a effacés à tout jamais en versant son sang sur la croix. Il a fait cela à travers son sacrifice et on peut le louer pour cela ce matin. On peut vraiment le louer cet après-midi pour cela, pardon. Tous nos péchés ont été effacés à travers le don de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Dans Isaïe 43, 25, Dieu dit à travers Isaïe, « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et hier, à travers le G30, j'ai dit une chose, j'ai dit qu'on a plus de difficultés à oublier les torts que les autres nous ont faits que le Seigneur peut oublier nos péchés. On a plus de difficultés à pardonner le mal que les autres nous ont fait que le mal qu'on a pu... Dieu a plus de facilité à oublier que nous, en fait. Dieu a plus de facilité à pardonner que nous, frères et sœurs. Ouais. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu merveilleux. Ouais. Michée dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Hey, c'est pas un fardeau. C'est pas une labeur pour le Seigneur. Il prend plaisir. Ouais. Dieu prend plaisir à pardonner. C'est difficile souvent pour nous de pardonner. On n'est pas nécessairement... On dit pas à quelqu'un, je te prends plaisir à te pardonner, hein. On dit, bien, ça va, je te pardonne. Ça arrive qu'on dit, ça va, je te pardonne. Hein. Mais Dieu prend plaisir, nous dit le texte dans Michée. Il aura encore compassion. Je continue le verset, hein, Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Finalement, Jean dit, en parlant des enfants de Dieu dans sa première épître, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Non seulement m'a-t-il purifié dans le passé, mais il me purifie continuellement dans le présent. Il continuera à me purifier dans le futur jusqu'à ce que je reçoive ce nouveau corps qui me permettra de me tenir parfaitement dans la présence de Dieu. Et malgré tout, frères et sœurs, s'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Ouais. Et lorsque l'accusateur de nos frères, celui qui se présente jour et nuit, pour nous accuser. Celui qui est notre avocat lui montre simplement ses mains percées en lui disant, « Nous ne savons pas de quel péché tu parles. Cette personne est un enfant de Dieu. Et il a été reconnu juste à travers le sang que j'ai versé pour lui sur la croix. Tous son péché sont oubliés, pardonnés. » Frères et sœurs, c'est un terme juridique important, le mot avocat. C'est un terme important. Parce que quand on se présente devant Dieu, on n'est jamais tout seul. Oui. Comme il le fait pour Étienne, Jésus se lève. Il se lève pour t'accueillir, mon frère, pour t'accueillir, ma sœur. Et même si l'accusateur vient chuchoter des choses, il lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur lui parce que ses péchés ont été lavés par le sang de l'agneau et je suis l'agneau. Je suis l'agneau ressuscité. Frères et sœurs, moi, plus je médite les Écritures, hein, et plus ça m'effraie de voir que quelqu'un qui n'a pas rencontré le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, ça m'effraie de penser que cette personne-là va se rencontrer tout seul, va rencontrer Dieu tout seul devant son trône, sans aucun avocat à côté de lui, va être prêt à se défendre tout seul. La seule chose qu'il va pouvoir présenter à Dieu, hein, c'est ses péchés, quoi. C'est la seule chose qu'il va être capable de présenter à Dieu. C'est incroyable, quoi. Eh bien, frères et sœurs, c'est un sujet de louange cet après-midi, ça. Seigneur, non seulement tu nous as donné un sauveur, non seulement tu nous as donné aussi, tu nous as donné un avocat, Seigneur, qui plaide notre cause jour et nuit devant ton trône. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Ouais. On a besoin de rafraîchir notre vision non seulement de ce que Christ a accompli sur la terre, mais aussi de ce qu'il continue à accomplir pour nous là-haut. Non seulement il prie, non seulement il intercède pour nous, mais il est notre avocat auprès du Père, nous dit le texte biblique. Il plaide notre cause quand l'accusateur des frères vient pour essayer de nous écraser, vient pour essayer de nous calomnier, de nous salir. Eh bien, le Seigneur Jésus dit, tu n'as aucune autorité sur lui. Il a été lavé par le sang de l'agneau. Amen. Amen. On va prier. Hein. Prenez deux, trois personnes encore. Prions. Prions. Ouais. Simplement remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné un avocat. C'est extraordinaire. Savez-vous combien ça coûte un avocat aujourd'hui? Les gens n'ont même plus les moyens de se payer un avocat, à moins d'aller chercher un prodéo. Le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Il nous représente gratuitement. Il a payé le prix, il ne nous a rien demandé. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter ce qu'il a accompli pour nous. De déposer nos péchés sur lui, afin qu'il dépose sur nous sa justice. Et que quand on se présente devant Dieu, eh bien, l'accusateur n'a rien, absolument rien à dire. Et nous, il plaide notre cause auprès de l'accusateur. Prions. Oui. Seigneur, notre Dieu même, tu ne nous as pas donné seulement une famille, tu ne nous as pas donné seulement un sauveur, mais quelqu'un qui est assis à ta droite, Seigneur, et qui plaide notre cause, quand l'accusateur vient nous accuser. Seigneur, merci pour ce Jésus que tu nous as donné, qui a accompli sa mission sur la terre, mais qui là-haut continue un ministère de prière, d'intercession, et qui nous représente auprès de toi. Seigneur, que nous voulons te louer, te bénir encore une fois, parce que c'est une grâce que tu nous accordes, Seigneur, de faire en sorte que nous soyons représentés devant toi par notre Sauveur, le ressuscité. Amen. Amen.
Merci Seigneur, car je ne connaissais pas le temps, mon Seigneur. Je ne connaissais pas le temps, mon Seigneur. Nous sommes assis sur ce roc, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, Seigneur, qui a passé le premier de nous, Père, Seigneur. Merci pour ta patience, merci, car tu es en plaisir que tu nous as tous donné, Seigneur.
David dit au verset 3, il pardonne toutes nos iniquités. En tant que pécheur, Dieu m'a pardonné. Comment mon âme peut-elle oublier cela? Comment David, l'âme de David, a-t-elle pu oublier cela, frères et sœurs? Comment David a-t-il pu oublier cela? Comment David a-t-il pu oublier que Dieu y avait pardonné son péché d'adultère à partir du moment où il se repentit? Pas juste confessé, repenti. Ouais. L'apôtre Paul dit en Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Et là, vous avez la condition après pour que vos péchés soient effacés. Ça prend les deux. Et la vraie conversion, elle est précédée par la repentance. Et la vraie conversion, c'est quand la personne essaye de vivre, fait tous ses efforts pour vivre comme Dieu le demande. Ça, c'est la vraie conversion. C'est un changement radical de vie. Ça, c'est la vraie conversion. Il y a plusieurs conversions, mais celle-là, c'est la vraie. Hein? Ça, c'est celle qui vient de Dieu, quoi. D'abord, j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de réaliser que je suis coupable aux yeux de Dieu. J'ai besoin de ça, de le réaliser. J'ai besoin de confesser mes péchés. Et après, la conversion, c'est quoi? Parce que je suis passé par la nouvelle naissance, eh bien, dans la pratique. C'est ça, la conversion, c'est dans la pratique. Je vais démontrer que je suis né de nouveau en faisant tous mes efforts pour vivre comme Dieu me demande de vivre. Je suis une autre personne. C'est entre la repentance et la conversion que le vieil homme meurt, là, que l'ancien Jacques qui meurt. Et là, ben, on voit, on se dit, ah, il n'est plus pareil. Et une bonne nouvelle, hein, c'est, ça m'est arrivé dans ma famille, c'est quand vous êtes converti puis qu'on vous dit, oh, mais je t'aimais mieux avant. Alors que tu étais épouvantable avant. On dit, je t'aimais mieux avant. Mais là, tu t'aperçois qu'il y a une autre personne qui rencontre et qu'ils aimaient mieux celui qui était de la même race qu'eux, hein, qui faisait partie de la race des pécheurs. Et là, ben, parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on fait partie du royaume de Dieu. Et là, ben, on t'aimait mieux avant. Oui, oui. Je connais des alcooliques qui ont été délivrés comme ça, hein, au Canada, et qui ont témoigné, hein, qui ont été rejetés par leur famille. Pas parce qu'ils avaient arrêté de boire, parce qu'ils avaient accepté le Seigneur. Et en même temps, la conséquence, c'est parce qu'ils avaient arrêté de boire, parce que quand ils étaient sous, hein, toute la famille se moquait d'eux, quoi. C'était les bouts en train, c'était les bouffons dans les fêtes et dans les soirées de famille, quoi. Ouais, ouais. Ben, c'est ça l'homme pécheur, hein. C'est ça l'homme pécheur. Et vous savez pourquoi les gens, ils aimaient mieux quand vous étiez avant? Parce que vous étiez à peu près à leur même niveau. Vous faisiez à peu près les mêmes péchés qu'eux. Et là, ben, vous êtes une lumière. Sans même témoigner, vous êtes une lumière. Hein. Parce que si on vous demande d'aller à telle place, si on vous demande de faire telle chose, ben, par la nouvelle naissance, c'est plus, ça ne fait pas partie de votre bagage. Vous avez autre chose à vivre. Vous avez d'autres activités à partager. Oui. Et les gens vous disent, ben, on t'aimait mieux quand même avant. Hein. Oui. Vous avez plus de plaisir à se moquer de toi. Hein. Oui. Et là, ben, ce n'est pas de la moquerie, ça devient de la persécution. Hein. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui voudra le suivre, eh bien, sera persécuté. Et qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Verset 3. Regardez le deuxième point que je voulais souligner, deuxième bienfait. En tant que personne malade, il me guérit. Qui me guérit de toutes mes maladies. Oh, là, on va mettre le pied, hein. Ces corps dans lesquels nous nous trouvons sont souvent affectés par différentes maladies, par des maux de toutes sortes. Cependant, ce verset ne fait pas référence aux guérisons physiques. Il ne fait pas référence aux guérisons physiques. Allez dans l'hébreu, allez dans la Septante. C'est absolument pas les guérisons physiques qu'on parle ici, chers amis. C'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir les membres de son peuple de leurs souffrances physiques, malgré ce que certains prédicateurs prêchent. Et dans ce texte que nous avons sous les yeux, David fait référence aux maladies de l'âme, les conséquences des abus, les conséquences de la colère, les conséquences de la rancune, les conséquences de la vengeance. Il y a des gens qui ne dorment pas de la nuit à cause de tous ces maux qui touchent à l'âme. On ne parle pas du physique, là. De tous ces problèmes, de ces péchés qui font référence à l'âme. Oui, pardon. Nos âmes sont sujettes à supporter de nombreuses maladies terribles. Parmi ces maladies, il y a l'immoralité, la jalousie, le découragement, la dépression, la colère, la peur, la culpabilité, le doute, pour n'en nommer que quelques-uns. Tout aussi certain que les maladies du corps peuvent conduire à la mort, les maladies de l'âme peuvent nous empêcher de nous amener à crier à Dieu, nous laisser sans force et nous et également nous conduire à la mort. Vous avez vu les opiacés, ouais, les opiacés, là, hein, oui? Es-tu un médecin ici? On peut me donner le nom? Regardez, là, il y a des gens qui meurent par milliers aux États-Unis. Hein. On vient de déclarer l'état d'urgence pour essayer d'enlever ces médicaments sur le marché parce qu'il y a des gens qui meurent d'overdose, quoi. Tellement que c'est difficile pour eux, tellement qu'ils ont subi des blessures dans leur vie, tellement que ça devient invivable pour eux. Alors, on leur en donne une première fois parce qu'ils souffrent, oui, mais le corps s'habitue très, très rapidement et les gens ne peuvent pas s'en passer. Et ça tue plus que la drogue aux États-Unis. Au moment où je vous parle, en 2017, il y a plus de morts qui sont morts en prenant cette forme de médicament, de gens qui sont morts en prenant cette forme de médicament qu'en se droguant. Alors, le président Trump a lancé des mesures d'urgence pour enrayer ça et cela. Au Canada, on a des gros problèmes dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Ça meurt par centaines, les gens, quoi. Par centaines. C'est une drogue qui est 100 fois plus grande, en fait, c'est un médicament qui est 100 fois plus puissant que l'héroïne. Et ça, on retrouve ça dans une capsule, quoi. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent par des overdoses. Et ça, ça fait partie, c'est un problème dans l'âme, c'est un mal-être. C'est un mal-être. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas un péché physique, pas quelque chose qui est visible, mais ça se passe à l'intérieur de l'âme de la personne, quoi. Il y a un mal-être terrible. Et les gens, pour compenser cela, eh bien, on prend des médicaments, on consomme de la drogue, on consomme de la boisson. Dieu merci, il y a un remède pour les maladies de l'âme. Le psalmiste dit au psaume 107, que chaque jour, le médecin divin visite ses patients et par sa grâce, il guérit tendrement et efficacement toutes les maladies de nos âmes. Toutes les maladies de nos âmes. Bien sûr que pour préparer cette guérison, il peut utiliser des médecins. Bien sûr qu'il peut utiliser de la médecine pour soulager les âmes qui sont malades. Mais Dieu merci, il y a un remède pour les maladies de l'âme. Comment l'âme peut-elle oublier le tendre toucher du grand médecin qui, en tout temps, a su mettre en lumière, traiter et guérir les maladies de l'âme? Lorsque je pense à l'aide que j'ai bénéficiée auprès du Seigneur lorsque j'étais gravement malade, je ne peux rien dire d'autre que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et qu'elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Ouais. Dieu est toujours présent, Dieu est toujours à nos côtés. Et peu importe les gens qui rentrent ici pour la première fois, peu importe ce qu'ils vivent en eux, peu importe de quel esclavage, quelle forme de péché ils sont esclaves, Dieu en Jésus-Christ est encore capable de guérir. Dieu est encore capable aussi à travers la médecine de soulager. Alors, ça c'est une bénédiction aussi. Et c'est dans sa grâce que Dieu donne la connaissance aux médecins. C'est dans une grâce que Dieu donne la connaissance aux médecins. C'est une grâce qu'on ait toutes ces machines aujourd'hui pour être capable de sonder l'intérieur des corps, pour pouvoir découvrir la maladie qu'on ne découvrait pas il y a plusieurs dizaines d'années avant. Mais les machines sont perfectionnées, et ainsi de suite. Et c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Amen. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Et encore une fois, c'est dans sa pitié, dans sa miséricorde, que Dieu non seulement prend soin de ses enfants, mais il prend encore soin de ceux qui ne lui appartiennent pas. Ouais. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Hein? Il fait lever le soleil autant sur les injustes que sur les justes, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Et pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut que tous parviennent au salut. Parce qu'il veut qu'un jour tous parviennent au salut. Oui. Troisièmement, rapidement, verset 4. C'est lui qui délivre la vie de la fosse. Toute personne qui entre dans ce monde est esclave du péché, frères et sœurs, et se dirige vers une conclusion horrible, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Rendons grâce à Dieu qu'il a vu le sort des âmes perdues et qu'il nous a donné un moyen pour nous racheter. Il a vu la domination que le péché exerçait sur nous. Il a vu la destination finale qui nous attendait. Et qui attend tous les êtres humains. Il va faire quelque chose à ce sujet. C'est ça, Dieu est un Dieu qui agit, frères et sœurs. Il va venir dans ce monde à travers la personne de Jésus-Christ et il va payer le prix de notre rachat sur la croix. Pierre dit, vous savez en effet quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que ceux qui nous ont précédés dans cette vie nous avaient transmise. Frères et sœurs, est-ce que la croix c'est devenu quelque chose de routinier pour nous, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas remercié le Seigneur d'avoir fait le premier pas, d'être venu nous visiter en Jésus-Christ pour nous permettre de connaître son message de salut, pour nous permettre d'être délivrés de l'esclavage dans lequel on se trouve. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on a... Est-ce qu'on a oublié, frères et sœurs? On est des gens oublieux. Ouais. Ouais. Honnêtement, hein, ça m'arrive d'oublier. Hein. Mais chaque jour, on devrait le faire. À chaque jour, on lui doit tellement. À chaque jour, on est tellement pris dans l'activité. C'est ce temps et un temps qu'on doit prendre avec le Seigneur. Vous dites, Seigneur, merci pour ce que cette croix représente pour moi. Merci parce que tu me donnes rendez-vous à chaque jour au pied de cette croix. Non seulement parce que tu veux que je te parle, mais aussi parce que tu veux me parler à travers cette croix. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette croix? N'oublie jamais le prix que j'ai payé pour te montrer jusqu'à quel point je t'aime. Voilà pourquoi le message de la croix dérange dans des sermons certaines personnes. Hein. Ouais. Si notre vie est tout croche, on ne veut pas entendre parler de la croix. Hein. Ouais. Parce que non seulement elle nous rappelle jusqu'à quel point Dieu nous aime, mais elle nous rappelle qu'à vivre dans le péché, jusqu'à quel point on est des enfants ingrats, qu'on ne mérite pas le cadeau que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Hein. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la croix dans une église. Ouais. Chaque jour, on devrait revenir parce qu'on a une dette éternelle. Éternelle. On lui doit une dette éternelle. Quoi. Éternelle. Ouais. Et au verset 4, David se rappelle qu'il a été racheté par la grâce de Dieu. Ouais. Pierre dit, ce n'est pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur comme l'argent ou l'or que vous avez été délivrés. Mais par le sacrifice précieux du Christ. Maintenant, ceux qui étaient esclaves du péché, qui étaient destinés à passer l'éternité en enfer, ont été délivrés de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient. Ils ont un espoir céleste aujourd'hui. Je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il est possible qu'on pêche après avoir été sauvé. Mais il y a une chose qui définit qu'on est vraiment né de nouveau, c'est qu'on est libéré de l'esclavage du péché dans lequel on se trouvait. Si on n'est pas libéré, on peut regarder là où ça flanchait, dans notre façon de comprendre le message du salut. c'est pas moi qui le dis, toutes les épîtres, Paul se permet de dire que nous sommes libres en Jésus-Christ, que nous avons été libérés. Jésus lui-même le dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre. Libre de quoi? De faire la volonté de Dieu, alors qu'avant, je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance, hein? C'est ça une nouvelle personne. Le vieux Jacques n'était pas capable d'obéir à Dieu. Il était enchaîné, menotté, parce qu'il avait pour père le diable. C'est ce que Jésus dit, ce n'est pas mes paroles. Maintenant, Jésus-Christ, c'est une autre personne. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Je suis libre. Je suis libre de dire non ou de dire oui au péché. Et ça, vous savez ce que ça fait comme responsabilité? Je ne pourrai jamais accuser le diable d'avoir réussi à me tenter, à me faire tomber. Parce que je suis libre de dire non ou oui au péché. Sans Jésus, je ne suis pas libre. Je suis un esclave. Et on n'est pas des pécheurs sauvés par grâce. Nulle part, Paul parle après la nouvelle naissance. Jamais, jamais, il utilise le mot qu'un chrétien, c'est un pécheur. Jamais. Si vous me le trouvez, je me reprends ici devant puis je vous demande pardon. Jamais. Jamais, jamais. Nous sommes des enfants de Dieu qui avons la capacité de pécher, mais jamais Paul va mettre comme synonyme pour un chrétien que c'est un pécheur. Jamais, jamais, jamais. Il parle tellement qu'on est libéré qu'il ne peut pas nous comparer à ceux qui n'ont pas été libérés, qui sont esclaves du péché. On est sauvés par grâce, on est des enfants de Dieu qui avons toujours la capacité à pécher dans notre corps mortel, mais on n'est pas des pécheurs. Parce qu'on est libéré. Le pécheur, c'est synonyme, c'est un esclave du péché. Pas un alcoolique. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui est esclave de la boisson. Un alcoolique, vous voyez la différence entre l'alcoolique et l'ivrogne, hein? L'ivrogne, là, la Bible ne parle jamais d'alcoolisme, hein? Non, elle parle d'ivrogne, parce que l'ivrognerie, c'est un péché. L'alcoolisme, c'est une maladie. Une pauvre victime, l'alcoolique. Mais l'ivrogne est esclave d'un péché, c'est la boisson. C'est ça. Je regrette, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas que le vocabulaire manquait à ce moment-là, mais c'est toute la différence de quelle façon Dieu traite le péché. Frères et sœurs, vous êtes libres en Jésus-Christ. Ouais. Et le diable, il vient vous chuchoter que non, vous êtes moins que rien, vous êtes aussi pire qu'avant, puisque vous avez besoin d'une béquille. Ouais. Mais écoutez, on est encore mieux d'avoir une béquille que de ne pas en avoir du tout, hein? Parce que quand on n'avait pas du tout, c'était vraiment pas une gloire la façon qu'on vivait, quoi. Ouais. Et ici, le psalmiste, il se rappelle, « J'étais esclave, Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as racheté. » Ah, gloire à Dieu pour cela, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et c'est un sujet de louange cet après-midi. Ouais. « Seigneur, tu n'étais pas obligé de porter ton regard sur un pécheur tel que moi. » Oui. « Seigneur, tu n'étais pas obligé de me libérer. » « Seigneur, tu aurais pu me laisser dans ma boue. Pourquoi moi? On est une famille de 8 enfants. J'étais le pire de la famille. Pourquoi moi et pas les autres? » C'est une question que je demande au Seigneur, ça. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il me répond? Parce qu'il y a un chrétien un jour qui a rencontré, qui a fait son travail, il s'est ouvert la bouche, puis il t'a parlé d'où venait la source de son bonheur. Que tu enviais tellement en regardant les yeux qui brillaient. Alors que tes frères et ta sœur n'ont pas encore eu cette opportunité. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous réalisez, vous n'êtes pas chanceux, hein, de connaître le Seigneur, hein? Vous n'êtes pas chanceux, frères et sœurs. Rendez grâce à Dieu qu'il ait placé quelqu'un sur votre chemin pour vous parler de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, hein? Oui. Oui. Oh, priez, hein? Prenons un temps pour prier encore. Prenons un temps pour prier en fonction du verset 4. Ouais. Oh Seigneur, merci de m'avoir libéré de l'esclavage du péché. Merci Seigneur parce que ces chaînes qui m'entouraient, qui me neutralisaient, qui me paralysaient, eh bien aujourd'hui elles sont tombées et aujourd'hui j'ai la liberté de pouvoir lever les mains là-haut vers le ciel et te louer, te bénir, t'adorer pour la nouvelle vie que tu m'as donnée en Jésus-Christ, pour une nouvelle espérance que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Pour ce nouveau Père que j'ai rencontré, pour ce frère aîné que j'ai rencontré en Jésus-Christ, et pour ce Père que tu es pour moi. Merci, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée. Oui. Oui, Seigneur. Et je te prie pour mes frères, je te prie pour ma sœur qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses placer des chrétiens sur son chemin, sur leur chemin, pour qu'ils puissent entendre parler du message que tu m'as fait dans ta grâce, que tu m'as fait entendre il y a plus de 30 ans. Oui, Seigneur, tu délivres encore aujourd'hui, c'est ta volonté. parce que ta parole nous dit que tu veux que tous parviennent au salut, que tous viennent à la repentance et à la connaissance du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Que ton nom soit loué et soit béni, Père. Amen. Continuons à prier. Deux, trois personnes, de courtes phrases. Oui. Parole de remerciement.
Dans la fosse de la destruction, dans la boue du péché. Et plutôt, Seigneur, que de m'écraser, de nous écraser, de nous mettre la tête dans cette boue, c'est toi qui es venu nous tendre la main et nous retirer en dehors. Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu vers moi, vers chacun. Et donne-nous, Seigneur, de saisir cette profondeur d'amour. Toi qui es sans péché, toi, le Dieu saint, qui ne peut pas voir le péché sans le punir. Tu as accepté de venir dans cette fosse de la destruction pour que dans ta grâce, tu mettes mes pieds sur le sol qui est un rocher éternel. Et qui attire mes regards, non plus vers ce monde, mais vers la félicité d'en haut, parce que c'est de là que tu viens. Que nous prenons, Seigneur Jésus, comme sauveur. Tu es venu un jour pour sauver nos âmes de la colère, et nous t'attendons comme sauveur. Transforme-là le corps de notre abaissement dans un corps semblable. Et dans l'attente, nous savons, Seigneur, que dans nos familles, dans nos connaissances, il y en a qui se complaisent dans cette foule de choses. Et nous pensons à eux pour que tu places sur leur chemin des hommes, des femmes, qui leur disons autrefois j'étais dans la vie, et maintenant je suis sur la roche de Jésus.
Amen.
Seigneur, sauve-les de ton succès.
Amen. Verset 4, on va continuer. Verset 4, regardez ce qui est écrit ici. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui te couronne. Frères et sœurs, c'est extraordinaire ce texte. Dieu couronne ses enfants de bonté et de miséricorde. Et le mot bonté ici correspond au mot grâce dans le Nouveau Testament. Et sa grâce, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il vous couronne de bonté et de miséricorde. Et le mot miséricorde fait ressortir l'idée d'une compassion et d'un amour tendre, un amour qui est doux. Son amour, sa grâce est merveilleuse et incomparable, mais sa miséricorde, c'est-à-dire la pitié qu'il manifeste à notre égard, dépasse tout ce qu'on peut exprimer. Cela nous rappelle le doux toucher d'une mère. Il y a quelque chose en son toucher qui nous communique l'amour, la paix, la sécurité et le bien-être dont nous avons tellement besoin, frères et sœurs. Je remercie mon Dieu pour son doux toucher alors que je voyage sur cette terre sur laquelle il est de plus en plus difficile de vivre. Mais que Dieu soit loué, car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent de chaque jour, jour en jour, frères et sœurs. Que sa fidélité est grande, nous disait Jérémie dans ses lamentations. On va sauter sur une autre, tout de suite sur la cinquième, parce que le temps passe. C'est en tant que son enfant, il pourvoit, verset 5. Il pourvoit, frères et sœurs. En tant que notre Père bienveillant, regardez ce qu'il dit au verset 5. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Extraordinaire! En tant que notre Père bienveillant, il donne à ses enfants les bonnes choses de la vie. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il donne toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, frères et sœurs. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous. Mais Dieu sait, il nous donne toujours le meilleur pour chacun de nous. Et ceux qui se reposent en lui, qui reçoivent leur force de lui, découvriront qu'il renouvelle constamment leur force physique et spirituelle et que leur foi ne leur fera jamais défaut. Frères et sœurs, il y a un secret, je ne me souviens pas où j'en ai parlé, c'est à l'étude biblique mercredi. Il y a un secret, si vous voulez voir votre foi grandir, ce n'est pas à méditer le plus de versets possible dans la Bible, c'est en servant le Seigneur. Si vous ne servez pas le Seigneur, votre foi, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. On l'a vu mercredi, on en a parlé, c'est une loi du Seigneur. Comment je peux faire pour tester la valeur de ma foi? C'est dans la pratique. Ce n'est pas juste apprendre des versets par cœur. Comment je peux voir si ces versets-là vont marcher dans ma vie? Si je l'apprends par cœur, voici, c'est de l'abstrait, du concret. Bien, je dois pratiquer, je dois servir le Seigneur. Et là, je peux le louer, dire, Seigneur, ce que tu promets, c'est vrai, ça vient d'arriver, Seigneur. Et là, on fait un bond dans notre foi, quoi. Mais la foi, elle grandit à travers le service qu'on a, dans lequel on s'implique dans le corps de Christ. Ceux qui ne demeurent pas en lui auront du mal à continuer leur course, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, ils font partie de ceux qui, comme l'aigle, sont en mesure de s'élever au-dessus des tempêtes et des difficultés de la vie. Et lorsque le psalmiste dit au verset 5 qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle, il fait probablement référence au moment où dans sa vie, l'aigle va muer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'aigle, une fois dans sa vie, il va muer. Et j'ai entendu certains prédicateurs enseigner qu'à mesure que les aigles vieillissent, leur bec et leur serre s'incrustent de calcium, ce qui fait que leur bec et leur serre sont beaucoup moins pointus qu'ils l'étaient autrefois, soit pour attraper des proies ou autres, pour les déchiqueter. Et ce qui fait que, lorsque cela se produit, l'aigle ne peut plus chasser comme dans le passé. Et de plus, en vieillissant, il perd également certaines de ses plumes. Et lorsque cela arrive, son corps émet un bruit, parce qu'il lui manque des plumes. Son corps émet un bruit quand il descend pour venir chercher une proie dans l'air. Son corps émet un bruit. Et lorsqu'il plonge vers sa croix, bien, ça détruit sa capacité de chasser dans le plus grand silence, parce que les proies entendent ce sifflement qu'ils n'entendent pas habituellement. Et ça enlève son efficacité en tant que chasseur. Quand l'aigle entre dans cette période de sa vie, il quittera son nid qui se trouve au plus haut sommet des montagnes, pour trouver plus bas une place entre les rochers. Et là, il arrachera toutes ses plumes et il cassera son bec recouvert de calcium contre les rochers. Il va même gratter ses serres contre les rochers jusqu'à ce qu'elles ressemblent à des bosses. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, c'est des bosses. Alors, il y a le bec, il est complètement brisé, qui a été frotté sur la roche, quoi, limé, et la même chose pour ses griffes. Et à ce stade, l'aigle est complètement vulnérable et sans défense. Plusieurs morts pendant ce processus parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir ou échapper aux prédateurs. Mais durant cette période, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la vie de ceux qui survivent. Leurs plumes et leurs becs recommencent à pousser. Leurs serres repoussent aussi longues et aussi pointues qu'elles étaient dans le passé. Après un certain temps, l'aigle quittera les rochers. Il se mettra à faire battre ses grandes ailes et à remonter vers le sommet des montagnes où était son nid, et en ayant remporté la victoire sur cette période sombre de sa vie. Beaucoup parmi nous peuvent s'identifier avec la douleur ressentie par l'aigle. Nous traversons tous un moment donné dans notre vie où nous sommes appelés à subir une transformation dans notre cœur. Et si l'aigle vivra cette expérience qu'une seule fois dans sa vie, nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes appelés à vivre cette expérience à plusieurs reprises dans notre vie. La réponse pour tous les deux réside dans le fait d'arriver au rocher. Le rocher. Et quelqu'un vient de le dire dans sa prière, notre rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur lui qu'on peut s'appuyer, c'est sur lui qu'on peut compter. C'est là que nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu et renouveler nos forces. Et après que l'aigle ait traversé ce processus de mue, il peut fixer non seulement ses yeux directement vers le soleil, mais il peut à nouveau planer au-dessus des tempêtes. De même, l'enfant de Dieu qui a traversé la sombre vallée, qui a été restauré par celui qui est le rocher, peut fixer à nouveau ses yeux vers Jésus qui siège à la droite de Dieu et s'élever au-dessus des problèmes et des tempêtes de la vie. Le psalmiste dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il arrive parfois, lorsque les aigles sont en train de muer, que d'autres aigles volent au-dessus de leur tête et laissent tomber de la nourriture entre les rochers pour qu'ils puissent se nourrir. Les scientifiques disent que les jeunes aigles ne laissent jamais tomber de la nourriture pour ceux qui sont en train de muer, mais que ce sont les aigles plus âgés qui ont déjà vécu cette expérience dans le passé qui veulent bien partager leur nourriture avec ceux qui souffrent. Il y a là un message pour nous aussi cet après-midi. Frères et sœurs, les épreuves dans nos vies, elles sont faites pour nous amener à penser aux autres. Elles sont faites pour nous amener à avoir de la compassion pour les autres. Parce qu'il n'y a personne qui est épargné les épreuves dans sa vie. Surtout pas les chrétiens, les épreuves qui sont vraiment particulières. C'est intéressant que ce sont les adultes qui ont vécu ces moments difficiles, les aigles adultes qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, qui viennent et qui, au-dessus des rochers, lâchent la nourriture, sachant qu'ils sont fragiles aux prédateurs, vont lâcher la nourriture. Mais le jeune coq, le jeune aigle qui n'a jamais rien vécu, qui est tout jeune, qui tourne toujours encore autour de son nid, bien, quand il passe au-dessus des rochers, lui, il n'a aucune compassion, quoi, parce qu'il n'a pas connu. Il n'est pas capable de se mettre à la place de ceux-là. Il n'a rien vécu dans sa vie. Ouais. Et Dieu permet qu'on vive des épreuves dans notre vie chrétienne, pour qu'on soit capable de se mettre à la place des autres, qu'on ait compassion pour les autres, parce que c'est ça le corps de Christ. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ça le corps de Christ. Dieu veut nous amener comme Jésus-Christ. S'il veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ, il veut nous amener, ça c'est le plus difficile, à se mettre à la place des autres, à se mettre à la place de ceux qui souffrent, pour être capable de prier, non seulement de prier pour eux, mais de pouvoir les aider si le besoin se fait sentir. Et ça, c'est dans les différents domaines dans l'Église. Frères et sœurs, c'est facile de dire qu'on est une famille, mais qu'est-ce qu'on fait pour démontrer qu'on appartient à cette famille, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'on appartient vraiment à cette famille? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer que c'est vraiment Dieu qui est notre Père? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer que c'est vraiment Jésus-Christ qui est notre frère aîné? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer notre reconnaissance à Dieu le Père, d'avoir envoyé son Fils Jésus-Christ au quotidien. Ouais. Frères et sœurs, c'est facile de dire que j'appartiens, moi, à la famille Don Québec. Hein? J'ai aucun contact avec eux depuis 30, 25 ans. Hein? Ouais. Facile, ça. Hein? Ouais. Facile de dire ça. Hein? Maintenant, si vous me demandez ce qui se passe dans ma famille, je suis incapable de vous le dire. Hein? Alors, je ne fais plus vraiment partie de la famille. Hein? Ouais. Mais dans la famille de Dieu, on devrait être au courant de ce qui se passe chez les uns et les autres. Hein? Ouais. Il faut être capable d'abord de prier, ça, c'est important. Demander à Dieu qu'il puisse intervenir. Et si physiquement ou matériellement on est capable d'aider, eh bien on doit se lever pour aider. C'est ça la famille. Hein? Ouais. C'est ça la famille. Ça, c'est la vraie famille. Hein? Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas normal qu'on sache pas ce qui se passe, qu'on ne sache pas ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas une famille, ça. Ouais. Et Christ a payé de sa vie pour construire une famille qui lui ressemblerait. Lorsque je pense à la façon dont Dieu m'a sorti à plusieurs reprises des rochers déchirés de la souffrance et de la douleur, qu'il m'a rendu la force spirituelle dont j'avais besoin pour remporter la victoire sur ce que je vivais, je ne peux que dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. En terminant, n'est-il pas vrai de dire qu'il arrive parfois que nous oublions les grandes bénédictions que nous avons reçues du Seigneur? Oui, une bénédiction que je peux louer tout de suite. Hein. Merci au Seigneur de m'avoir donné cette famille qui n'est pas parfaite parce que je ne suis pas parfait. Mais gloire à Dieu pour cette famille. Oui, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que tous ceux qui sont nés de nouveau, cette famille va se prolonger dans l'au-delà. Et cette famille, les membres de cette famille vont se retrouver sur cette nouvelle terre. Non seulement pour y habiter, mais lisez bien Apocalypse, pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Régner. Alors, on ne se croisera pas les mains, les doigts et les bras ensemble. Hein? On va régner. Et régner, ça dénote qu'on va faire quelque chose. Comme Pierre dit, Paul n'a pas tout raconté. ce qu'il a vu là-haut. Il avait d'abord, il a défendu de raconter ce qu'il a vu. Et frères et sœurs, le Seigneur, il ne vous a pas déçu depuis que vous l'avez accepté. Hein? Il ne vous décevra pas dans l'autre monde non plus. Il a quelque chose de merveilleux pour vous. Et ça vaut la peine de continuer à lutter. Ça vaut la peine de continuer à combattre le bon combat et de faire cette course à laquelle nous sommes appelés tous et chacun. Et cet après-midi, eh bien, c'est ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur. Vous partagez à travers ce message de louange qui vient de David, qu'on est souvent des gens oublieux, qu'on oublie de louer le Seigneur. On est vite à critiquer, on est vite à juger, mais à louer le Seigneur, ouvrez nos bouches pour bénir. Combien c'était une leçon difficile à apprendre régulièrement, et ce même au quotidien, avant de juger, avant de parler en mal de quelqu'un. Dire, Seigneur, je te remercie parce que tu as changé ma langue. Et tu as changé ma langue parce que tu as changé mon cœur, Seigneur. Avant, je te maudissais, maintenant, je te bénis.
Oui.
Et vous savez, la meilleure façon d'arrêter de parler en mal de quelqu'un, c'est que quand on parle en mal de lui une fois, on va le trouver. Et on ne va pas demander pardon à Dieu. On va devoir son frère et sa sœur, pour dire que je te demande pardon parce que j'ai sali ta réputation. Je te demande pardon parce que j'ai décausé sur toi. C'est ça, être redevable les uns les autres. Hein. C'est ça, la famille. Hein.
Ouais.
Je ne sais pas comment ça se passait chez vous, mais nous, avec les 8 enfants, quand ça n'allait pas entre nous, la mère, elle disait, viens ici, toi. Tu lui demandes pardon. Et si je ne voulais pas lui demander pardon, eh bien, elle me mettait dans le coin. Et comment elle faisait pour savoir si mon pardon était véritable? Eh bien, elle disait, maintenant, embrasse ton frère. Embrasse ton frère. Ouais. Vous savez, ce qui manque dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on ne s'embrasse pas assez souvent.
Oui.
Parce que s'embrasser, là, vous savez ce que ça signifie? À moins d'être un traître comme Judas, hein? S'embrasser, ça veut dire que ma conscience, mon frère, ma soeur, est clean avec toi.
Oui.
C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, moi, je ne suis pas de la race de Judas, je vais t'embrasser. Parce que moi, je fais partie de la nouvelle race qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. On va se lever, on va chanter un cantique en terminant.